À rencontre spirituelle en ce 21 mars, je célèbre la fête de Saint-Benoît comme on le faisait il n'y a pas longtemps. C'était sa fête, Saint-Benoît. Le 21 mars, ça a été transféré au 11 juillet. C'est pour ça qu'il y a un peu moins de 2 ans, je fêtais avec vous Saint-Benoît au mois de juillet, le 11, en 95, puisque je faisais des émissions durant l'été à ce moment-là. On m'a demandé, étant donné mon âge très avancé, de me reposer, de prendre des vacances en juin, juillet et août. Et alors, je préfère restituer la fête de Saint-Benoît à son ancien jour du 21 mars, en plein carême. Et elle a été célébrée là pendant des siècles. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Le message de Saint-Benoît, un message universel. Il a eu un impact sur la société occidentale qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. Et même, le message s'étend au tiers-monde aujourd'hui et a une importance énorme en Afrique et en Amérique du Sud et en Asie. Pardon. Un siècle avant Saint-Benoît, c'est en Égypte, évidemment, que les chercheurs de désert, comme on les appelle, ont commencé. On vous a raconté ça, M. Robert Prudhomme vous a raconté ça à Radio Ville-Marie. Puis, les moines, les chercheurs de désert, se sont répandus autour de la Méditerranée, à Lérins notamment, où il y a encore des moines, des cisterciens, c'est sur la Côte d'Azur, sur une île. Et enfin, en Occident, j'ai déjà parlé de Saint-Martin le 11 novembre dernier, de Saint-Patrick lundi dernier, beaucoup plus tard Saint-Colomban. Saint-Benoît, lui, est né en 480. Il est mort à l'âge de 67 ans. Après quelques années de vie solitaire, là, au désert, comme on dit, c'est-à-dire dans des rochers, il voit se grouper des disciples autour de lui, puis en l'an 529, donc 49 ans, il fonde la communauté du Mont Cassin. Et c'est là qu'il rédige sa règle qui est demeurée immortelle et qui est toujours vécue par des milliers et des milliers d'hommes et de femmes. Au cours des siècles, elle s'est imposée à de si nombreux monastères que ça couvrait la carte de l'Europe. Il faut voir dans des ouvrages là-dessus, la carte, c'est couvert de monastères, c'est incroyable. Et puis, il y a la fameuse super abbaye de Cluny qui est apparue en Bourgogne en 910, en plein cœur de la France, qui avait sous sa juridiction des milliers d'abbayes et de prieurés. Puis il y a eu la création des cisterciens, finalement, qui sont au fond des bénédictins, dans un sens. Ils sont apparus en 1098 et qui ont été illustrés surtout par Saint-Bernard, le fameux Saint-Bernard. Puis finalement, il y a eu les trappistes, c'est des cisterciens réformés en 1662 avec l'abbé de Rancé, dont je vous ai parlé aussi. Et parallèlement, bien, il y a eu les moniales, dont les abbesses du Moyen-Âge ont eu un immense pouvoir. Il y a eu un essor extraordinaire au lendemain de la dernière guerre chez les anciens soldats catholiques américains. Il y a eu un tas de fondations de monastères aux États-Unis, et en particulier de trappistes. Et c'est là qu'on voit celui qui s'est le plus illustré parmi eux, Thomas Merton, dont je vous y parlerai un jour. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a l'implantation dans le tiers-monde et en Afrique surtout. Paul VI, le pape dont je vais vous parler bientôt, a proclamé patron de l'Europe Saint-Benoît en 1964. Il lui a donné ce titre, Saint-Benoît, le grand moine solitaire et social. Le grand moine solitaire et social, ça semble contradictoire. Ça ne l'est pas du tout. Pas du tout. Les moines de Saint-Benoît ont en effet exercé pendant 4 siècles au moins une action décisive d'évangélisation en Europe. Saint-Augustin pour les Anglais, Saint-Boniface pour les Allemands, Saint-Willibrord, Saint-Ansker pour les Scandinaves et Saint-Adalbert pour les Slaves. Les moines, ils ont été des faiseurs de paix. Ils ont, pour ainsi dire, presque fondé des villes parce qu'ils fixaient leurs monastères puis les gens se groupaient autour d'eux pour se préserver des attaques de certains seigneurs retors. Et ça a formé toutes sortes de villes et de villages. Parce qu'ils ont été les promoteurs de la dignité du travail, non seulement leur travail, mais le travail des laïcs. Grâce à leur respect du travail manuel, les moines en ont fait l'instrument du développement. Alors qu'auparavant, il était symbole d'esclavage, on appelait ça le travail servile. Et pour la première fois dans l'histoire, grâce au monachisme, une société sous-développée a réussi à se développer par elle-même, sans apport extérieur, et Saint-Benoît est à l'origine de tout ce processus libérateur et civilisateur. C'est un grand personnage que Saint-Benoît. Pour la société occidentale, qui recherche l'équilibre et la paix, qui recherche des communautés fraternelles, qui veut promouvoir l'écologie, et qui cherche aussi une vie spirituelle approfondie, puis qui vont chercher un peu partout, c'est, espérons-le, l'augmentation du nombre de monastères, de moines vivant dans des monastères, mais vivant dans le sens intérieur du terme, qui pourra sauver notre société, parce que face aux situations instables, aux grands changements de civilisation, puis les inquiétudes que nous avons, le stress, le désenchantement, la violence, le travail qui est dénaturé, l'environnement dégradé. On voit ça à la télévision continuellement, on nous montre ça. À New York, c'est terrible. Mais notre vieille société, c'est Jean-Paul II qui a répété les mots de Paul VI, et notre vieille société a besoin de puiser dans ses racines. Ça, c'est pour notre société occidentale, mais pour le tiers-monde, les mêmes circonstances dans lesquelles tout ce bel esprit qu'on trouve dans la règle de Saint-Benoît. Avez-vous déjà lu ça? C'est tout petit, la règle de Saint-Benoît, c'est quelques pages, ou disons 75 pages. Et c'est si beau à lire. Un peu aride parfois, un peu spécial, mais lisez-le quand même et vous y trouverez des bijoux, des perles. C'est très beau. Or, il y a un esprit organisateur dans cette règle, un esprit concret, qui a réussi jadis. Puis ça se présente actuellement devant nous. Ça permet aux gens du tiers-monde de faire face à ce monde décadent. Ils font du monachisme, les gens du tiers-monde, un modèle d'autodéveloppement économique, culturel, puis aussi d'intériorité spirituelle. Ça fait beaucoup de bien partout où ça existe, en Afrique comme en Amérique du Sud et en Asie. En toutes circonstances, il reste entendu que le seul but des moines, c'est quoi? C'est pas l'absolu en soi, mais c'est l'absolu de Dieu, Dieu seul, qu'il cherche dans le désert, où il est aisé de le découvrir et il est plus aisé de le garder et de se laisser garder par lui. Mais c'est un désert communautaire. C'est un désert communautaire où s'exerce l'accueil fraternel selon le programme qui est tracé là dans la règle par Saint-Benoît, qui est le père des moines d'Occident. Le Saint-Benoît lui-même, bouf, on ne sait pas grand-chose. Je vous en ai parlé, comme je vous ai dit, le 11 juillet 95. Je vous ai raconté sa vie, je ne veux pas la reprendre, mais je vous rappelle qu'on le représente souvent dans des images. J'en ai acheté, d'ailleurs, quand je suis allé à Subiaco et au Mont Cassin l'été dernier, grâce à Mgr Chimiquel, là, j'ai rapporté de très belles reproductions de fresques anciennes. On le voit avec la barbe. Mais l'existence personnelle de Saint-Benoît, ça tient en peu de mots, à travers une espèce de quantité extraordinaire de miracles que Saint-Grégoire le Grand, qui était moine bénédictin et qui a été son biographe et un grand pape, il a cueilli dans sa vie. On peut lire d'ailleurs cette vie de Saint-Benoît, de Saint-Grégoire le Grand, commenté par Don Adalbert de Vaugui, ce moine ermite de la pierre qui vire, que j'ai déjà interviewé à la télévision. Certains d'entre vous sont venus voir cette belle entrevue que j'ai présentée au Centre Unitas il y a quelques jours. Et la traduction est très intéressante et les commentaires de Don Adalbert sont très éclairants. Je pourrais, au besoin, si je suis toujours vivant l'année prochaine et dans d'autres années, essayez de développer ça pour vous faire aimer ces moines qui ont tant fait pour notre civilisation. On sait, à 3 ou 4 ans près, donc il est né en 480, à Nurcie. C'est pour ça qu'on l'appelle Saint-Benoît de Nurcie. C'est près de Spolète, au cœur de l'Italie, ça. De sa famille, on connaît même pas le nom. À l'exception de sa sœur scolastique, célébrée le 10 février, elle, et de sa nourrice. Sont cités l'une et l'autre à l'occasion d'un miracle par Saint Grégoire le Grand. Benoît, adolescent, est envoyé à Rome pour faire du droit, et c'était l'usage. Il était écœuré par la vie des étudiants, les étudiants qui se conduisaient extrêmement mal. Alors il laisse tout ça en plan. Il s'éclipse. Il est suivi de sa nourrice, qui s'occupe de son ménage. Puis finalement, il la sème à son tour, il l'abandonne, lui demande de retourner à Nurcie. Et Saint-Benoît se retrouve seul, incognito, dans une caverne inaccessible de Subiaco, à 70 kilomètres de Rome. C'est pas tellement loin de Rome. Je vous conseille d'y aller. C'est superbe. C'est extraordinaire. C'est un des endroits les plus merveilleux que j'ai vu de ma vie. Alors, j'ai rapporté de là un immense livre en couleur, tout illustré. Il y a tellement de belles fresques et de belles choses à voir à Subiaco. C'est extraordinaire. Ils ne pouvaient pas apporter un peu d'argent, ils vendent de beaux souvenirs. J'en ai rapporté, oh, des belles choses, de belles choses. Alors, il est là avec Dieu. Il a environ 20 ans, Saint-Benoît, à ce moment-là, et Grégoire le Grand dit magnifiquement de lui, il y eut un homme, Benedictus, qui veut dire béni, Benoît. Béni de grâce et de nom, dit Saint Grégoire le Grand. Et il ajoute, à Dieu seul, il voulut plaire. Conduit par la sagesse, il se retira au désert. Seul dans sa solitude bien-aimée, Benoît habita avec lui-même, toujours attentif à veiller sur soi, se tenant constamment en présence de son Créateur, ne laissant pas errer au dehors le regard de son âme. Sa véritable vie commence alors. Et elle se terminera sur les hauteurs du Mont Cassin, à mi-chemin entre Rome et Naples. Détruit plusieurs fois, vous le savez, et détruit au mois de février 1944 par les bombardements américains, et a été reconstruit par les Italiens. Moi, je pensais que ça avait été reconstruit par les Américains, mais non, c'est reconstruit par les Américains, par les Italiens, pardon, et ce gigantesque monastère que je suis allé voir aussi, et qui est reconçu de façon, en grande partie, vraiment admirable. Puis il y a un musée, puis il y a toutes sortes de choses à voir. Puis il y a les moines, on peut prier avec eux au moment des offices. Hein. Il apparaît sur sa montagne comme, on pourrait dire, le mont Tabor des moines du monde entier. Et c'est là que va naître l'ordre bénédictin, et que Saint Benoît a rédigé sa règle. Et Benoît évoque ses devanciers. Hein. Il écrit, « Pour qui se hâte vers la perfection de la vie monastique ?» Il y a la doctrine des pères du désert qui enseigne clairement comment parvenir d'une course directe à notre Créateur. Et Benoît cite la plupart des pionniers, dont il est question dans les pages précédentes. Et puis, notamment Saint Basile, dont la règle continue à régir les moines d'Orient. Et il est vraiment admirable, ce Saint Benoît, et vous verrez que sa règle et le développement de la vie monastique à travers l'histoire ont transformé le monde. La règle de Saint Benoît, je vous l'ai dit, c'est qu'un petit livret d'une centaine de pages, même moins. Mais chacune de ces phrases possède une surprenante densité. Ça se présente comme un itinéraire qui conduit au but dans le chemin le plus court. Saint Benoît a trouvé une sagesse pour vivre ensemble. Et tout au long des siècles, sa règle a offert un chemin dans des situations les plus diverses. Il y a un moine qui a écrit, Ainsi se dessine la figure originale d'un genre de vie pour aujourd'hui et pour demain. Et peut-être le trait essentiel qu'il caractérise, c'est l'équilibre. L'équilibre entre des valeurs que l'on a à opposer. La vie personnelle puis la vie collective, l'autorité puis la liberté. Et on comprend pourquoi la tradition a retenu le mot de « paix, pax » pour en faire la devise de Saint-Benoît. Lorsque 50 ans après la mort de Saint-Benoît, le Saint-Grégoire le Grand décrit sa vie, comme je vous ai dit, à travers les miracles qui lui sont attribués, puis il y en a, c'est un peu exagéré, mais c'est très beau parce que je suis sûr qu'il y en a qui sont authentiques, il termine par ces mots « à tant de merveilles accomplies par l'homme de Dieu, il faut ajouter non moins brillante sa parole doctrinale ». En effet, il a écrit une règle des moines remarquable, remarquable par sa discrétion et sa clarté. C'est un homme de bon sens, Saint-Benoît. Et Grégoire le Grand n'ajoute en fait presque rien. Tout était dit. 30 ans après la mort de Saint-Benoît, les Lombards ont détruit le monastère du Mont-Cassin. Vous savez qu'il a été détruit 4 fois. Quelques moines s'en sont échappés avec le livret de la règle qu'ils ont apporté à Rome, puis à peine fondé, l'œuvre de Saint-Benoît semble disparaître dans le flot de la barbarie. Pourtant, on pense que ça n'aura aucun impact sur le reste du monde monastique, mais l'autorité puis l'admiration du pape Saint-Grégoire met bien la règle de Saint-Benoît de côté. Elle ne sera pas oubliée. Si Saint-Benoît n'est pas Saint-Bernard, qui lui a eu un rayonnement immédiat, c'est quand même un très grand homme. Saint-Bernard ne pouvait pas ignorer l'influence que Saint-Benoît avait eue sur l'Europe de son temps. Saint-Bernard, il apparaît, bon, disons, 600 ans, ou presque après Saint-Benoît. Saint-Benoît, c'était le père d'une institution monastique limitée. Il ignorait l'avenir, mais tous ses programmes équilibrés de vie basés sur sa propre expérience ont enchanté énormément de gens. Il ne savait pas que sa règle contenait en germe, évidemment, la régénération de l'Europe, puis, pour ainsi dire, presque du monde entier. Il ne savait pas que ça contenait un message universel. Ce qu'a fait Saint-Benoît au premier jour, les moines de sa règle l'ont fait tout au long de l'histoire et le font encore, hein, comme lui, par leur simple existence qui est une source permanente de paix. Oui, c'était des faiseurs de paix, les moines. Ce sont eux les promoteurs de la trêve de Dieu. Vous avez déjà entendu parler de ça dans l'histoire, la trêve de Dieu. Ce sont les champions aussi de la paix de Dieu. Ce sont des tentatives là, les plus efficaces, ça, ces deux, la trêve de Dieu puis la paix de Dieu, pour enrayer la violence, pour essayer de mettre un peu de sens commun parmi les gens qui préféraient la guerre, afin d'arrêter ça au nom de Dieu. Elle est exemplaire, cette anecdote, pour vous donner ça, par Saint-Grégoire le Grand. Saint-Grégoire le Grand raconte justement l'esprit pacificateur des moines de Saint-Benoît. Il raconte un goût nommé Zalla, au temps du roi Totila, avait pris un paysan qu'il torturait avec cruauté. Affolé de douleur, le paysan déclare qu'il a confié ses biens en dépôt au serviteur de Dieu Saint-Benoît. Alors Zalla lui ligote les bras et se fait conduire au monastère. Il trouve Benoît devant la porte de la maison occupé à lire. Le paysan dit « Le voilà !» Zalla se met à brailler, « Debout, debout, rends ce que tu as reçu. » À ce tonnerre, l'homme de Dieu, Benoît, lève les yeux, aperçoit Zalla, puis le paysan. Son regard s'arrête sur les bras attachés et aussitôt les liens se dénouent. Stupéfait, Zalla saute de cheval et se jette aux pieds de l'homme de Dieu. Benoît ne se lève pas de sa lecture. Il appelle les frères, leur ordonne d'introduire Zalla, et de lui donner un bon repas. Puis, il l'exhorte à réfréner ses cruautés. Et le terrible Gaut, G-O-T-H, comme vous savez, hein, le terrible Gaut, subjugué, se retire apprivoisé. Alors, d'un côté, vous avez le patriarche des moines, assis devant le monastère au mur tranquille, calme, paisible, absorbé par la lecture. Puis de l'autre, une nature tourmentée. Le tumulte, la violence, la torture, l'injustice. Que ça rappelle tellement de monde aujourd'hui qui sont comme ça. Et par sa présence, son rayonnement miraculeux, mais Saint-Benoît rend à ce tortionnaire, comme au torturé d'ailleurs, le plus précieux trésor qu'on puisse trouver ici-bas, c'est la paix de l'âme. Une seconde anecdote qui est bien éloquente, s'il s'agit de la décision prise par Benoît de construire à Terracine un monastère, le second après le Mont Cassin. Il envoie un groupe de moines, puis met un abbé, vous savez ce que c'est le supérieur d'un monastère. Abbé, ça vient du mot abba, qui veut dire père. Alors, il met un abbé à leur tête et leur promet de venir personnellement veiller à la construction pour qu'elle soit, que ce soit ce que ça doit être, quoi. Saint-Benoît ne vient pas. Mais dans un rêve très précis, il montre au fondateur où bâtir l'église, le réfectoire des frères, l'hôtellerie, puis tous les lieux du couvent. L'homme de Dieu, raconte Saint-Grégoire, l'homme de Dieu ne vient pas. Alors, ils lui disent leur déception. Et il leur répond, « Pendant votre sommeil, je vous ai indiqué l'emplacement de chacun des lieux un à un. » Alors, ils se mettent alors à construire chaque partie de l'habitation selon les instructions reçues en sommeil. La règle de Saint-Benoît, elle fixe à jamais ce genre d'instructions. Où construire les choses, comment faire? Puisque c'est écrit dans la règle, c'est un exemple que je vous donne de ce qu'on peut trouver dans la règle. Le monastère doit être organisé de telle sorte que tout le nécessaire, eau, jardin, atelier, se trouve en son enceinte afin que les moines n'aient pas à en sortir. C'est un des points de vue les plus importants. Saint Benoît est le premier à exiger du moine qu'il se donne à son monastère par le vœu de s'y maintenir et d'y mourir. C'est ce qu'on appelle le vœu de stabilité. Le moine et un monastère ne font qu'un. Un moine bénédictin ne passe pas d'un monastère à un autre, sauf exception. Alors, dans ce monde qui est à la dérive, comme notre monde d'aujourd'hui, dispersé par toutes sortes d'angoisses puis de craintes, les moines ont su créer, sans l'avoir cherché, des conditions puis le modèle de vie qui ont permis au peuple de se reprendre, de se ressaisir. Le monastère a été à l'origine, comme je vous ai dit, d'une foule de villages. Et c'est pour ça, ça a stabilisé les populations. C'était même à l'origine de bien des cités, des villes, à travers toute l'Europe. Je vous raconte une troisième anecdote qui est significative, qui met en scène des moines au travail. Un jour, raconte Saint-Grégoire, les frères, travaillant la construction, décident de déterrer une grosse pierre pour en faire usage. Ils se mettent à plusieurs pour la remuer, mais sans résultat. Alors, prévenus, Saint-Benoît arrive en hâte, il bénit leur travail, puis la pierre est soulevée avec une surprenante aisance. Alors d'autres frères travaillaient à un mur. Celui-ci s'écroule et écrase un jeune frère. Il y a des images là-dessus, des fresques. Tous sont bouleversés par cette mort. Alors Benoît intervient, il prie, et voilà que le garçon, sain et sauf, vaillant comme auparavant, il se remet avec ardeur au travail. C'est l'illustration de la règle qui dit les frères doivent à des heures fixes s'occuper au travail manuel. Si les circonstances ou la pauvreté l'exigent, que les frères, dit la règle, fassent eux-mêmes la récolte. C'est alors qu'ils sont vraiment moines, s'ils vivent du travail de leurs mains, comme nos pères et les apôtres. À ceux qui sont faibles, on donnera des aides pour qu'ils fassent le travail sans tristesse. Je peux vous dire que pendant les deux années de 1944 à 1946 que j'ai passé à Saint-Benoît-du-Lac, je n'ai jamais tant travaillé de ma vie dans les champs, à faire des routes, planter des haies, ramasser des pommes, m'occuper des canards, m'occuper des cochons, faire du fromage et faire le ménage, nettoyer ça. On travaille dans un monastère. Mais il y a beaucoup de moments de prière, beaucoup de moments de recueillement. Et une telle paix qui s'installe dans nos cœurs, et une telle joie d'être ensemble, tous ensemble dans le même idéal d'amour de Dieu. C'est une joie, à mon avis, immense pour ceux qui y sont appelés. on aime célébrer le rôle civilisateur des moines qui sont venus au bon moment là pour reconstruire l'Europe sur les ruines de l'Empire romain. Puis on aime louer en Saint-Benoît le sens de l'équilibre, puis de la mesure, de l'ordre, son égalité d'âme et de caractère. La qualité extraordinaire appréciée autrefois dans la Rome antique, qui est encore appréciée aujourd'hui quand on voit quelqu'un qui a cette égalité d'âme et de caractère, comme on ressent une paix. Et en ce sens, on peut dire que Saint-Benoît a été le dernier des Romains, ou le meilleur des Romains. Les historiens les moins attentifs au monde spirituel ont dit des communautés bénédictines que leur influence, je cite, « sur une Europe déchirée et épuisée est inimaginable ». C'est des grands historiens, ça. L'institution monastique, les monastères, cette institution monastique, dans ses rapports avec la civilisation en Occident, ça aboutit à quoi? Une œuvre d'éducation qui est menée à la fois par des chefs de grand style, par des foyers anonymes de sainteté et de culture qu'ils ont créés autour d'eux, et d'où sont sortis des hommes de telle envergure qu'on en a fait de grands et saints papes, d'éminents cardinaux, des évêques, mais surtout de grands savants, intelligents, profonds, mystiques qui ont su éclairer l'Europe et le monde. Et si donc Saint-Benoît est le patron de toute l'Europe, s'il est patron du monde, c'est d'abord en raison de la part des moines dans la transmission de cet héritage antique et dans la formation de la civilisation médiévale, c'est eux qui copiaient sur des vélins les vieux textes civilisateurs de la Rome ancienne et surtout de la Grèce, et qui ont su préserver ces œuvres qui seraient tout jamais perdues aujourd'hui. Et aujourd'hui, les gens qui se targuent de culture grecque et de culture romaine méprisent le christianisme et ne se rendent pas compte que c'est grâce à ces grands chrétiens, ces moines, qu'ils ont ces livres dans leur bibliothèque. Saint Benoît n'avait rien prévu de tel. Les moines pour lesquels il écrit, ce ne sont pas des travailleurs de l'esprit, et cependant, pour lire avec profit, selon les recommandations là, de sa règle, il faut posséder un minimum de culture, il me semble, il faut avoir des livres, pouvoir les acheter, puis les transcrire dans les monastères, des scriptoriums, des bibliothèques. La bibliothèque à Saint-Benoît-du-Lac est immense. Eh bien, puis il fallait des ateliers de copistes. Aujourd'hui, à la pierre qui vire, ils sont pas un atelier de copistes, ils ont un atelier d'imprimerie, très importante, l'abbaye de la pierre qui vire en France. Et puis, c'était le scriptorium, puis des ateliers, des copistes, c'était des annexes indispensables du monastère tel qu'il l'a conçu pourtant Saint-Benoît. Et chaque monastère comporte de nombreux ateliers nécessaires à son existence aussi. C'est comme une petite cité, une petite ville, un monastère. Les moines se font aider pour des gros travaux si le monastère vient s'implanter dans une région où il faut abattre des arbres, où ils ont de la difficulté à faire de l'agriculture. Il faut déblayer le terrain, alors ils peuvent se faire aider à ce moment-là. Mais ils ont aussi asséché beaucoup de marais. Je pense à Notre-Dame-des-Dombes, les Trappistes au siècle dernier. Pour assécher un grand marais, je crois qu'ils ont perdu 70 moines et qui ont attrapé des maladies en asséchant le marais. C'est terrible. Il faut organiser des villages aussi pour les populations qui viennent s'agglomérer autour du monastère, puis il faut des églises. Puis au milieu de la confusion presque générale, le monastère, quoi, c'est un roc, c'est un îlot. Il rassure les populations. Aucune ville où on les trouve au Moyen-Âge, pas de bourgade importante où les moines ne soient présents. Beaucoup de centres de peuplement doivent leur naissance à un monastère. La vie ne peut se concevoir sans eux pendant des siècles et des siècles. C'est pourquoi Saint-Benoît, sans en avoir eu directement l'intention, s'est trouvé à apporter à l'Occident ce que nul autre saint n'a pu faire. Bon, c'est peut-être pas un saint populaire. Moi, il est populaire avec moi, hein? Mais il est pas populaire avec n'importe qui. Moi, je suis un oblat de Saint-Benoît-du-Lac depuis près de 50 ans. Je suis fidèle à cet esprit que j'aime du fond de mon cœur. Or, c'est peut-être pas un saint populaire, mais c'est lui qu'une multitude de saints de nombreuses nations ont considéré comme leur père spirituel, leur éducateur, l'inspirateur de leur idéal, à commencer évidemment par les grands bénédictins, comme je vous les ai nommés tout à l'heure, Augustin, Boniface, Ansker, Willibrord, Adalbert. Ça, c'est les plus notoires, les plus honorés, comme les moines de Cluny, avec leur lignée d'abbés illustres. Je vous ai déjà parlé d'un de leurs abbés, mais je vous parlerai d'autres, qui ont eu des influences décisives, tous les grands défricheurs cisterciens et l'incomparable saint Bernard, qui se réclament d'une fidélité plus stricte à la règle de saint Benoît. Paul VI a dit le 24 octobre 1964 « Notre vieille société a tellement besoin de ses racines chrétiennes. C'est donc vrai aujourd'hui, on le dit, c'est vrai pour le Québec. Chacun un point déchirant. Moi, ça me brûle le cœur quand je vois la déchristianisation des jeunes. Notre vieille société a tellement besoin de ses racines chrétiennes, dont elle est redevable en si grande partie à Saint-Benoît qui les a alimentées de son esprit. Cette belle réalité mérite notre souvenir, notre culte et notre confiance, qui font toujours désirer l'austère et douce présence de Saint-Benoît parmi nous. Ce fut lui, dit Paul VI, qui par son effort constant et assidu a fait se lever sur notre continent l'aurore d'une ère nouvelle de la Méditerranée à la Scandinavie, de l'Irlande aux plaines de Pologne. Il a cimenté cette unité spirituelle de l'Europe grâce à laquelle des peuples de langues, de races et de cultures différentes ont pris conscience de constituer l'insigne peuple de Dieu. Ça les a rassemblés, les peuples. C'est difficile de tirer sur quelqu'un d'autre quand on sait qu'il est notre frère chrétien. Alors le pape ajoute unité, qui a malheureusement été brisée par les vicissitudes de l'histoire. Et aujourd'hui, tous les hommes de bonne volonté travaillent à la rétablir. Aussi, Pie XII salua-t-il, à juste titre, dans Saint-Benoît, le père de l'Europe. Jean XXIII désirait vivement qu'il en soit ainsi. Il est donc naturel que nous, il parle de lui-même, si le « nous » avec un N majuscule, c'est fini, le pape ne parle plus comme ça. Hein. Il est donc naturel que nous aussi nous donnions notre plein assentiment à ce mouvement qui tend à réaliser l'unité de l'Europe. C'est pourquoi nous avons accueilli volontiers les nombreuses instances demandant que Saint-Benoît soit déclaré patron de l'Europe. C'est pourquoi nous constituons et proclamons Saint-Benoît abbé, patron principal de l'Europe, donné à Rome le 24 octobre de l'an 1964. En parlant de tout ça, puis de la vocation monastique, un bénédictin de la pierre qui vire, où j'aurais tant voulu vivre, mais il faisait si froid qu'au bout de 11 jours, j'ai dû partir, j'étais gelé jusqu'aux os en 1950. Eh bien, ce bénédictin de la pierre qui vire écrit en 1980, lors de la grande célébration du 15e centenaire de la naissance de Saint-Benoît, que c'est la rencontre des moines et des moniales engagés à l'écoute de Saint-Benoît qui a été, dit-il, notre première lecture de la règle, qui a décidé de tout. Vie en communauté, relecture vivante et communication de la vie a une sagesse de vie qui a fait ses preuves 15 siècles. La règle fait vivre, et avec bonheur. Elle trouve même des échos profonds dans l'homme du 20e siècle finissant. Vigueur d'un ancrage assurant la vigueur de l'élan vers cet au-delà qu'elle ne cesse de proposer aux moines, dans cette étonnante liberté dont le moine fera l'apprentissage ou la conquête, pour peu qu'il écoute les préceptes du maître. Il faut écouter les préceptes du maître, c'est-à-dire le maître, c'est Saint-Benoît. Mais c'est aussi Jésus, le maître du moine. Son programme à Saint-Benoît, c'est à la fois de tenir le moine dans son monastère captif prisonnier de l'unique. L'unique avec un U majuscule qui est Dieu, en trois personnes. Le moine sera libéré. Oh non, pas cette libération par comparaison avec les autres hommes qui ont ce que je n'ai pas, là, que j'ai le droit d'avoir, d'arracher et de prendre, cette liberté de voler, d'enlever, d'arracher, pas ça du tout. C'est cette libération verticale, elle est en hauteur, dans la fermeté du cœur. C'est une libération qui se fait dans les certitudes de la foi. C'est là qu'elle est la liberté du moine et du vrai chrétien. Mais ce programme qui s'adresse à des moines, c'est-à-dire toujours à une petite minorité, mais ça a son rayonnement propre. Même dans les circonstances d'aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a des oblats de Saint-Benoît, comme je le suis, et d'autres. Celui qui choisit la musique de cette émission, Jean-Pierre Noiseux, est oblat de Saint-Benoît, comme moi. Est-ce que c'est pas là une bonne réponse aux problèmes posés aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui, hein, qui sont accablés souvent de travail, de courses, de stress, d'inquiétude? C'est angoissant. Il y a des bruits épouvantables dans cette société. On est accablés de bruits, ce qui nous blesse. Eh bien, le silence et la paix que nous recommande Saint Benoît fait qu'on endure le silence, non pas qu'on l'endure, on le désire, on l'aime. Et la sensation la plus forte quand on visite un monastère, qu'on fréquente des moines, c'est tout à fait à l'inverse du stress. On se trouve devant des hommes ou des femmes dont le rythme de vie est modéré, dont le comportement est détendu, paisible et même d'une certaine lenteur. Il n'y a pas de précipitation, il n'y a pas de montre à regarder du coin de l'œil, bien qu'une horloge qui est sans pitié impose à celui qui habite le monastère une heure bien précise pour chaque tâche. La cloche revient souvent. Mais c'est à la manière programmée par Saint Benoît. Il le dit, au signal qu'il se lève sans délai, chacun se attend, mais avec une parfaite gravité et possession de soi. C'est écrit il y a 1500 ans. Et ces paroles sont de l'or pour notre temps de stress. Puis inutile d'ajouter que tout monastère, même dans les villes, même de petite envergure, c'est un havre de paix. Et le mot paix résume le mieux, on peut dire, ce qu'a apporté Saint Benoît. La paix. D'ailleurs, on le lit sur la porte d'entrée du Mont Cassin, j'ai vu ça l'été dernier. C'est la clé qui ouvre la porte des trésors, et on le retrouve souvent à la porte des monastères, ce mot « pax ». La vie monastique, c'est un rythme assez particulier que j'ai donc aimé. C'est celui des saisons combiné à celui de l'année liturgique. On vit l'année liturgique, on sait que l'année, elle commence pas le 1er janvier, oh mon Dieu, non. Elle commence avec le premier dimanche de l'Avent. Le 1er janvier, ça n'a aucune importance. Grand Dieu, quand on est chrétien. Les deux, les saisons, l'année liturgique, quand c'est bien ajusté, ça permet un rythme intérieur merveilleux. Puis il est bon de visiter de temps à autre un monastère, comme on remet sa montre à l'heure. Il y a un animateur à Radio-Canada, Luc Faneuf, qui fait une émission le mardi soir à 19h et qui enseigne la religion à Brébeuf, qui amène comme ça une dizaine ou une quinzaine de jeunes, garçons ou filles, à Saint-Benoît-du-Lac, pour les faire se retremper pendant 48 heures, là où ils n'iraient jamais si ce n'était de lui. Quelle bonne idée! Et revaloriser le travail, puis en particulier le travail manuel. Être une source inépuisable de paix dans un monde en agitation, c'est une contribution que les moines font. C'est formidable. Ils font ça pour notre temps, pour nous arracher à notre bourbier à travers ces deux bienfaits, le travail, la paix, la prière. Il y a un troisième apport. Hein? Un monde finissant comme le nôtre, passage d'une civilisation à une autre. Nous sommes désenchantés. On a employé ce mot souvent dans les années récentes. Le désenchantement, le suicide, etc. Le dégoût, le manque de goût de vivre. Puis, les gens se moquent de tout, mais au désenchantement. Se mêlent, pour l'alourdir encore, une vague inquiétude aussi. Que les gens sont inquiets. Mais la vie naturelle du monastère constitue le plus inépuisable réservoir. Pour survivre à tout ça, pour trouver une énergie équilibrée, et c'est au monastère du XXe siècle qu'il faut chercher la mesure de, je dirais, de chacune de nos démarches. Certes, ce sont des oasis de paix, mais c'est là qu'on trouve Dieu, qu'on trouve la très sainte Trinité, la Trinité vécue, si on peut dire, car le moine dans sa stalle s'identifie au Christ, crie vers le Père dans l'unité de l'Esprit-Saint. J'aimerais vous lire un bref passage d'un texte du Père Abbé actuel de Saint-Benoît-du-Lac, dont Jacques Garneau. Quel bon abbé ils ont! Il nous faut, dit-il, il nous faut nous émerveiller devant la vie de Dieu lui-même, celle qu'il possède comme Dieu, celle dont il nous gratifie. La Trinité doit inspirer toute notre vie. C'est bien vrai, car nous qui croyons à la Trinité, nous sommes appelés à ne pas être des personnes solitaires, mais des personnes de communion, comme le sont le Père, le Fils et l'Esprit-Saint. Donner comme le Père, c'est la tâche de toute paternité, de tout apostolat. Recevoir dans l'humilité, obéir à la volonté du Père, c'est être à l'image du Fils et vivre en enfant de Dieu. Vivre dans l'intimité de Jésus, entrer dans la connaissance amoureuse du Père, c'est finalement vivre dans l'Esprit Saint. C'est en imitant la Trinité bienheureuse que nous deviendrons, à notre tour, artisans de l'unité des hommes pour la gloire du Père. C'était la fin d'un texte de Don Jacques Garneau, abbé bénédictin de Saint-Benoît-du-Lac. Dans la règle, on trouve cette parole, « Ne rien préférer à l'amour du Christ ». C'est Saint-Benoît qui dit ça, « Ne rien préférer à l'amour du Christ ». L'amour du Christ, voilà ce qui inspire Saint-Benoît lorsqu'il propose une règle à ceux qui veulent vivre ensemble une vie plus humaine et plus fraternelle. C'est pourquoi il invite ses disciples à découvrir dans ceux qui sont proches d'eux, là, ceux qu'ils rencontrent, le visage du Christ. Et cette attention au Christ, présent dans les autres, ça fait naître ça une attitude de respect, une attitude d'attention, de prévenance, et même de tendresse à l'égard d'autrui. Je remarque toujours ça quand j'arrive à Saint-Benoît-du-Lac et je vois le frère Anselme nous accueillir avec une telle tendresse. Il est portier, un frère. Peu à peu, on voit ça dans les autres monastères, je téléphonais à la Trappe d'Oka il y a quelques jours, le frère qui m'a répondu, quelle tendresse, quelle gentillesse. J'ai parlé au père abbé, quelle amabilité, quelle bonté, Don Moreau. Alors, peu à peu, elle façonne le disciple, cette attention au Christ. Ça transforme la vie du moine, cette attention au Christ. Les nécessités quotidiennes comme travailler, prendre ses repas, étudier, vivre ensemble avec les autres, sont autant d'occasions puis de moyens de faire grandir en lui la charité de Dieu, comme dit saint Benoît. Il voit la vie autrement. Toute la vie. Moi que je m'en souviens, comme c'est vrai. Car pour Benoît, rien n'est indigne de Dieu. Toute activité humaine, si humble soit-elle, peut s'ouvrir sur une illumination divine, pour peu qu'on en fasse une occasion d'imiter Jésus le Christ. La transformation du cœur qui s'amorce alors, ça déracine en l'homme cette volonté de puissance, la soif de l'avoir, l'instinct de violence, qui sont autant d'obstacles à la communion avec Dieu puis entre les hommes. Il y a deux mots qui reviennent sans cesse chez saint Benoît, l'obéissance puis l'humilité, l'obéissance puis l'humilité, l'obéissance puis l'humilité. Oui, l'obéissance est la disponibilité du cœur puis de toute notre vie. Puis l'humilité, mais c'est la marche confiante vers Dieu, qui lui-même est humble. À la suite du Christ, Quelle humilité même! L'authenticité d'une vie où l'homme tout entier s'ouvre à l'amour. Comme je vous citais mon fils à la veille de sa mort, qui écrivait à mon petit-fils, je vous l'ai dit hier, le plus beau cadeau dans la vie, c'est d'aimer Dieu, s'ouvrir à l'amour. Jésus priait, et souvent il priait même parfois longuement, mais saint Benoît lui aussi invite ses disciples à prier longuement, puis assidûment. Car c'est là, dans la prière, que l'homme, peu à peu, est transfiguré dans la lumière et comme établi dans la paix. Et alors, l'Esprit peut venir et accomplir en lui l'œuvre de Dieu. Comme je vous disais hier, l'Esprit Saint, il faut l'invoquer par un cri qu'on peut répéter souvent. Esprit Saint, prends-moi. Prends-moi, ne m'oublie pas, ne m'oublie pas. J'aimerais terminer par quelques prières que j'ai mises de côté, qui sont très très belles, ou très anciennes, mais écrites par des moines merveilleux, comme je pense à cette prière de Jean de Fécamp, qui est mort en 1078, qui a été abbé de monastère à Fécamp et à Dijon. Viens donc, ô viens, toi qui consoles ceux qui souffrent. Viens, toi qui guéris les plaies. Viens, force des faibles, soutien de ceux qui tombent. Viens, défenseur des humbles, vainqueur des orgueilleux. Viens, Père des orphelins, viens, viens. Viens, espérance des pauvres. Viens, étoile des navigateurs et port de ceux qui font naufrage. Viens, ô gloire, insigne de tous les vivants. Viens, ô Esprit Saint, entre tous. Viens et prends pitié de moi. Rends-moi semblable à toi. Et j'aime bien cette belle prière de Guillaume de Saint-Thierry, au XIe siècle. Non, c'est une prière de Saint-Bernard. Saint-Bernard. J'ai celle de Saint-Guillaume, de Guillaume de Saint-Thierry, mais je préfère, je pense, celle de Saint-Bernard, si je termine là-dessus. Je t'aimerai, Seigneur, toi, ma force et mon appui, mon refuge et mon libérateur. Tu es pour moi tout ce qu'on peut désirer et aimer le plus fort. Mon Dieu, mon soutien, je t'aimerai, non certes autant que tu le mérites, mais autant que tu m'en donneras le pouvoir. Ce ne sera pas bien sûr autant que je le dois, mais bien autant que je le peux, car il m'est impossible de t'aimer au-delà de mes forces. Je t'aimerai davantage si tu m'en donnes la force, mais ce ne sera jamais autant que tu en es digne. Tes yeux voient mon insuffisance, mais je sais que tu inscris dans ton livre ceux qui font ce qu'ils peuvent, lors même qu'ils ne peuvent pas tout ce qu'ils doivent.